R22 tout le monde, antenne 23h23. Antenne 23h23.
Avez-vous...
Avez-vous déjà écouté?
Écoutez quelqu'un qui parle. Écoutez quelqu'un parler. Depuis mon enfance, je me passionne pour la voix et pour ce qu'elle dit de nous.
Celui qui sait écouter avec intelligence renverse le rapport de force entre... Non.
Celui qui sait écouter avec intelligence renverse le paradigme qui voudrait que l'écoute soit, contrairement à la parole, une activité passive. Il devient alors acteur de la discussion en percevant parfois au-delà des mots. Dans les sons qui nous échappent, dans nos silences, nos précipitations à formuler, le choix de nos mots ou nos intonations. L'interprétation de la voix est la voie royale qui mène vers la connaissance de l'inconscient. De l'autre. De l'inconscient de l'autre.
De l'autre. De l'autre.
De l'inconscient de l'autre. Hein ? Mais c'est du français, ça ?
Chut !
Si l'on n'utilise pas l'écoute pour décrypter activement le discours, on peut en être victime. C'est ce que j'appelle le phénomène de la prise d'otage.
Vous avez un message.
À l'heure des réseaux sociaux, du culte de l'immédiateté et de l'image, du commentaire permanent, il est indispensable de rebâtir une confiance démocratique dans la vérité de l'information, reposant sur des règles de transparence et d'éthique. Ce vœu de vérité, c'est au fond un vœu pour tous d'écoute, de dialogue, d'humilité. D'écoute.
Vos paupières sont lourdes, vos membres, tous vos membres s'engourdissent, ils sont de plus en plus lourds, de plus en plus engourdis, votre corps est engourdi, vos mains, vos bras, vos jambes, tous vos bras, sont réellement
parce que je crois en nous, je crois dans cet espoir français et européen que nous pouvons porter. Alors, mes chers compatriotes, je vous souhaite une belle année 2019. Vive la République! Et vive la France.
Dans une discussion se joue parfois une sorte de rapport de force. Lorsque celui-ci est à l'avantage de celui qui parle, l'écoute peut devenir une prise d'otage masquée. Il ne s'agit donc pas de s'abandonner totalement à l'interlocuteur, mais d'entendre l'inconscient dans sa voix. Ne pas écouter que le fond, mais aussi la forme. Comme il y a un sous-texte dans le récit, je pense qu'il y a un sous-son dans le discours.
Vous avez un message.
Salut toi. Ta maman revient tout de suite, t'inquiète pas. Tu viens avec moi. Tu viens. T'es déjà plus calme. Oh, salut bonhomme, t'es drôlement beau, ça y est, ça va mieux, ouais.
Oh, oui. Qu'est-ce qui se passe?
Ça va.
Qu'est-ce qui se passe ?
Dans le cas numéro 2, on voit que notre propension à écouter s'appuie moins sur le contenu que sur les intonations. Ici, on pourra parler de flatterie... olfactive, c'est le nez. Ici, on pourra parler de flatterie auditive. Dans le cas numéro 2...
À la fin, le personnage dit « qu'est-ce qui se passe ?» Il a l'air apeuré. Et c'est vrai qu'en entendant l'homme qui parle, on a comme une sensation d'abus. Ici, l'homme s'adresse à un bébé. Et finalement, c'est peut-être l'enfant en nous, c'est-à-dire la partie de nous-mêmes la plus vulnérable, la plus manipulable, qui est convoquée lorsque la parole est instrumentalisée. Dans le cas d'une personne que je qualifierais sobrement de perverse, l'inconscient sonore apparaît dans une intonation, dans un lapsus, dans une forme de fausseté sous-jacente au discours. Parler n'a alors plus rien à voir avec la communication. Il s'agit d'amener quelqu'un à faire ce qu'on veut de lui. Cela suppose une forme de mensonge en intention, un décalage entre ce qui est énoncé et le message qu'on cherche à faire passer. Dans une société marchande comme la nôtre, cette instrumentalisation par la parole est très courante.
Là où l'argent vaut quelque chose, la parole ne vaut rien. Là où la parole vaut, l'argent ne vaut rien. Extrait de maintenant du comité invisible.
Nous commencerons ce cours, si c'est un cours.
Ça, c'est un cours, ça ? Mais c'est un cours de quoi ?
Nous commençons par analyser le sexe dans le discours. Il y a une sexualité dans le phrasé ou dans l'intonation, comme il peut y avoir de la sexualité dans un regard.
Vous avez un message.
Quoi ? Tu veux m'aider ?
Sans aucun doute. Entre autres, faire en sorte que jamais, jamais tu ne quittes la jungle.
Et de quelle façon ?
Oh, j'ai quelques moyens subtils en réserve. Mais pour cela, il faut avoir confiance.
Je n'ai plus confiance en personne.
Oh, je ne te le reproche pas. Mais moi, je ne suis pas ainsi que certains de tes prétendus amis. Tu peux avoir confiance en moi. Aie confiance, crois en moi, que je puisse veiller sur toi. Attention, Vanessa. Fais un son sans méfiance. Je suis là. Aie confiance. Le silence propice te berce. Souris et sois complice. Laisse tes sens glisser. Tu dors, petit ?
Oui.
Ici, sonorement, l'assonance en S fait passer un message subliminal.
Ici, sonorement, l'assonance en S fait passer un message subliminal.
Il pourrait très bien parler de points de suture, de souliers, de soutane, de seringue, de... On a compris, je pense. Ça va. Il pense sexe. On va voir un exemple de ce message subliminal, je dirais libidinal, à travers l'expression qui s'écrit H-U-M, H-U-M, qui est une façon de ponctuer la conversation en acquiesçant. Donc, premier exemple avec ce type de hum-hum.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Ici, cela signifie tout simplement que l'on est d'accord. Et il n'y a pas d'intention particulière de séduire. Contrairement à celui-là.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Mmh.
La réponse est une façon de faire passer un message subliminal, libidinal, je dirais.
Mais c'est quoi ça?
On a une autre... Le « un-un » peut être une alternative au « mm-hmm » qui procède du même usage, je dirais, phallocratique de la parole. Phallocratique en ce qu'il est une... Nous allons voir ce que recèle ce terme de parole phallocratique plus tard. Cela peut bien sûr être moins évident. Parfois, c'est seulement sur un mot. Il faut bien tendre l'oreille pour écouter les détails de la phrase.
Tu veux un dessin, mon chéri? Un sabayon? Une crème renversée?
Non, pas plus que ça.
Bah, t'es sûr?
Tu sais que lorsque j'étais enfant, j'avais coutume de ne pas dîner. Ce n'est qu'arrivé à l'âge de 10 ans que...
Pas plus que ça.
Lorsque...
Pas plus que ça.
Lorsque...
Pas plus que ça.
Lorsque...
Ici, le maniérisme sur la forme révèle quelque chose sur le fond. Il s'agit d'un cas particulier de narcissisme primaire. Puisque cette personne va utiliser une question banale pour revenir à une biographie d'elle-même, qui n'a pas été demandée. Voilà. Prenez garde. Si vous êtes à ce stade du message, vous êtes sans doute déjà sous la domination de celui qui parle. C'est ce que j'appelle la parole bouche-trou ou le phénomène du sac à vomi. Alors, qu'est-ce que la parole bouche-trou ou le phénomène du sac à vomi? Eh bien, la parole devient un abus lorsque l'autre est utilisé uniquement comme un récipient. Il s'agit non plus d'un dialogue, mais d'un monologue. L'écoute se fait à sens unique. Il peut s'agir pour celui qui parle de se libérer d'une angoisse. Pour vous qui écoutez, il s'agira de recevoir. Et vous, ce que vous êtes, votre identité ou vos sentiments n'ont aucune importance, pourvu que vos oreilles soient bien ouvertes. Vous êtes donc en train de vous faire instrumentaliser. Comment savoir que l'on est dans cette posture? Eh bien, il y a plusieurs signes distinctifs, comme par exemple le fait que la personne ne parle que d'elle, comme dans l'exemple précédent. Ou, autre exemple, que la personne se répète.
Ça va, t'as passé une bonne journée? Enfin, je veux dire, t'as fait des trucs aujourd'hui? T'as fait quoi d'ailleurs? Qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui de cool ou... Non mais est-ce que t'as passé une bonne journée ou est-ce que ta journée était bonne? Est-ce que tu t'as fait des trucs aujourd'hui? Qu'est-ce que t'as fait d'ailleurs? T'as fait quoi d'ailleurs? Non mais ça va, t'as passé une bonne journée. Non mais quoi d'ailleurs? Qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui?
Ici, nous avons plusieurs questions. Elles sont toutes synonymes. Le but étant non pas d'attendre une réponse, mais plutôt de combler le vide intérieur de celui qui parle. Comment lutter? Eh bien, j'ai ici deux extraits qui sont autant de réponses efficaces à ce genre d'attaque. Donc, le premier...
T'en fais pas, ça roule. On sera à l'aéroport dans un quart d'heure. Je suis contente de t'avoir vu un petit peu. Même si c'était court. Alors tu veux toujours pas me dire pourquoi tu n'es revenu qu'une journée? On peut se parler quand même. Toi, t'es pas content de me voir?
Ta gueule! Putain, maman! Ta gueule!
Ou la version plus polie, peut-être en société. Voilà.
Il ne s'agissait pas de mon livre. Je parle de Maurice Barrès pour dire qu'à un moment donné, le discours romantique de l'appartenance, hein, l'importance donnée par le rôle donné par les romantiques à l'appartenance face à l'idéologie d'un homme des Lumières, conçu comme son propre fondement. Eh bien, ce discours.
Donc, l'utilisation de l'autre comme bouche-trou ou sac à vomi est une des manifestations de ce que j'appelle l'usage phallocratique de la parole, c'est-à-dire la prise de pouvoir sur l'autre via le discours. Pour plus d'efficacité, elle peut s'accompagner d'une destruction d'autrui par le biais de la conversation. Qu'est-ce que la destruction par la parole, me direz-vous ? Eh bien, c'est simple, ça n'est pas forcément une destruction affichée, ça passe aussi par des moyens parfois très insidieux. Le doute instaurer le doute dans la psyché de son interlocuteur.
J'en vois déjà là qui s'ennuie. Si, ça baille de tous les côtés, ça s'étire, enfin bon, c'est pas une sieste hein, qui est proposée là. Alors avant qu'on s'endorme tous... Je vous propose une petite pause, car c'est vrai que le contenu de cette conférence est assez dense. Et justement, je vous propose, pendant cette pause musicale, eh bien peut-être d'inviter votre voisin, voisine, par la main, gentiment, dans un esprit bon enfant, à vous accorder cette danse et à profiter ensemble de ces 3 minutes de pause. Voilà.
Que nada dura. Para siempre es una frase común que suena muy diferente desde que te fuiste tú. Vuélveme a querer, no me castigues. Todo, pero 100 años son muy pocos, porque estoy seguro que aunque pruebes por el mundo, tú vendrás porque no sabes ser feliz sin mí. Vuélveme a querer, no me lastimes, como de ser feliz sin mí. c'était d'atterrir.
Ça vous a plu? Bon, bah c'est fini. On recommence. Le doute est la racine de la destruction. Instaurer un doute paralysant dans l'esprit de l'interlocuteur est une façon de le contrôler, en l'humiliant. Exemple.
Coucou, je suis rentrée.
Ah bonjour ma chérie, ta journée s'est bien passée?
Oui, super, bah tu sais, j'avance dans mon travail.
Ton travail? Tu penses vraiment que ça va marcher ce projet que tu as? Tu penses vraiment que ça va marcher ce projet que tu as? Tu penses vraiment que ça va marcher, ce projet que tu as? Tu penses vraiment que ça va marcher, ce projet que tu as?
Comment distinguer finalement le débat classique d'une destruction par le doute? Non, comment distinguer finalement le débat classique d'une tentative de destruction par le doute? Eh bien, la tentative de destruction par le doute génère chez vous de l'énervement, de la haine, et puis un grand découragement. Contrairement à une critique que je qualifierais de nourrissante, qui certes peut parfois être difficile à entendre, mais ne blesse pas dans ses proportions. Donc, reprenons l'exemple précédent.
Écoute, tu penses vraiment que ça va marcher, ce projet que tu as?
Mais pourquoi tu me dis ça?
Enfin, calme-toi. Pourquoi tu t'énerves, enfin? Mais je dis ça pour toi, moi.
Non, tu dis ça pour m'humilier.
Mais t'es folle.
Donc, une caractéristique flagrante de la destruction par le discours, via le doute, et d'accuser son interlocuteur d'être porteur d'une pathologie mentale, comme nous l'avons vu. Donc, cette destruction par le doute peut s'accompagner d'une insinuation à décliner son identité. Une identité monolithique qui fait l'économie de l'ambiguïté et des multiplicités intrinsèques à chacun. Et en réalité, pour l'interlocuteur, il ne s'agit pas d'en savoir plus sur vous, mais plutôt, encore une fois, de brouiller les pistes dans votre cerveau. On va écouter donc un exemple.
Non mais du coup, attends, je comprends pas en fait, tu fais quoi là? Tu fais quoi concrètement? Enfin, en fait t'es éparpillé quoi, faut te recentrer là, faut te définir, t'es qui? Je sais pas, dis-le, c'est ça être adulte, une personne responsable quoi, dis-le. Concrètement, t'es qui? Dis-le.
Donc face à ça, comment réagir? Oh, Donc cette assignation à une identité monolithique est en réalité un résidu de la société patriarcale qui se complète dans une catégorisation et un enfermement des êtres et dans l'estimation de la valeur de chacun au prorata de son statut social. Un statut social bien défini, bien arrêté, bien correct, bien comme il faut, bien dans les clous. On a compris ? Bien rangé. Cet usage phallocratique de la parole n'est parfois pas si évident. Parfois, votre interlocuteur se contentera, pour vous contrôler, de vous faire mourir d'ennui. C'est ce que j'appelle le phénomène de la succube.
La quoi ? La succube. Manipulation langagière qui prend la forme d'une hypnose par l'ennui. L'interlocuteur vous suce le sang sous couvert de discussion. Il en existe de différents types. Succube administrative. Exemple.
J'ai rempli la troisième ligne de ma déclaration d'impôt. L'année dernière, j'étais en micro-BNC. Cette année, j'ai choisi un régime BIC. Ah ben, c'est plus avantageux, à double titre.
Succube dépressive. Exemple.
Ah, je suis gros, non ? Bah, tu trouves pas ? Non, mais tu trouves pas que j'ai grossi ? Oh, bon, de toute façon, je suis moche. Ah si, regarde ! Non, mais regarde !
Ou succube logistique. Exemple.
Si on prend la Dolce Gusto, est-ce qu'on prend aussi la Nespresso ? Mais non, mais ben, je sais pas, mais s'il y en a qui préfèrent un cappuccino et d'autres un ristretto, ben, je fais comment, moi ?
Si vous êtes sous l'emprise d'une de ces succubes, vous le saurez tout de suite. Physiquement, vous allez expérimenter une profonde sensation de fatigue. Une seule solution.
Après avoir examiné ces divers types de manipulation, on est en droit de s'interroger. Si l'écouteur est manipulé, il n'est pas rare que le tyran langagier, celui qui fait un usage phallocratique de la parole, soit lui-même tyrannisé intérieurement. Je vous laisse écouter cet extrait qui nous donne un indice sur ce qui habite ces drôles de personnages. Qui parle finalement quand ils disent « je » ?
On t'attend pour aller déjeuner, Fabrice ?
Non, m'attendez pas, j'ai un dossier à finir.
Bah, t'es sûr ?
Oui.
Ah bah si bien. Ah bah tu vas quand même pas te faire un déj avec ce que tu t'es envoyé, gros lard.
Arrête, maman, arrête.
Bah quoi ? C'est vrai ? Ah bah je sais bien que c'est l'année du cochon, enfin là, dis donc.
On a là une forme d'extrapolation de ce que Burroughs qualifiait de langage virus.
On dit quoi ? On dit Burroughs ou Burroughs ou Burroughs ?
Je vous laisse écouter un extrait en anglais de ce qu'il entend par là.
My general theory since 1971 has been that the world is literally a virus. And it has not been recognized as such because it has achieved a state of relatively stable symbiosis with its human host. Does it say the word virus has established itself so firmly as an accepted part of the human organism that it cannot sneer at gangster viruses like smallpox and turn them into the Pasteur Institute.
Selon Burroughs, notre langage nous donne peu de répit. Selon Burroughs, notre langage nous laisse peu de répit et nous consume de l'intérieur. Il n'y a aucune possibilité de silence puisque le langage nous a infectés comme un véritable virus. Imaginez comme ce virus peut être mortel. Imaginez que ce virus soit doublement mortel et qu'il n'y ait pas un langage qui nous consume de l'intérieur, mais deux types de langages qui nous consument de l'intérieur. Le nôtre et celui de notre mère, comme dans le message précédent, l'extrait de...
Mais qu'est-ce qu'il dit ?
Ce que je veux dire, c'est que certaines personnes sont habitées non pas par un, mais deux virus langagiers. Le premier, le leur langage. Le deuxième, le langage de leur mère. C'est clair, là ? Voilà.
Eh bien, voilà, cette émission s'achève. Nous allons pouvoir terminer en musique. Putain, on n'a pas encore tapé une chanson de merde. Avec un chanteur qui fait un usage non pas phallocratique de la parole, mais un usage lyrique, d'aucuns diront, en tout cas les mauvaises langues, un phénomène de la carpette. Voilà.
Ils disent que je suis un clown et que je meurs pour vous sans que vous ne m'offriez la moindre attention. Ils disent que je suis un clown et que je me berce de l'illusion de vivre dans vos bras.
Elle est gênante un peu, non ? C'est gênant là, non ?
Dicen que soy un payaso que va buscando valor en el fondo de los pasos. Y es verdad, soy un payaso, pero ¿qué le voy a hacer? Uno no es lo que quiere, sino lo que puede ser. Dicen que soy un payaso, que estoy muriendo por ti y tú no me haces ni caso. Dicen que soy un payaso que te sigue por ahí con el alma hecha pedazos. Dicen que soy un payaso que querría hasta el amor que va aspirando a tu paso. Dicen que soy un payaso, que no tengo ni valor para pegarme un balazo. Y es verdad, soy un payaso, pero ¿qué le voy a hacer?
Et c'est vrai, je suis un clown. Mais qui puis-je? Nous ne sommes pas ce que nous voudrions être. Nous ne sommes que ce que nous pouvons être.
Y es verdad, soy un payaso, pero ¿qué le voy a hacer? Uno no es lo que quiere, sino lo que puede ser. Y es verdad, soy un payaso.
Bon, bien, j'espère que cette conférence vous a plu. Et pour ceux qui ont bien écouté, eh bien, il ne vous aura pas échappé que vous avez subi une prise d'otage de la parole. Et j'espère qu'à cet effet, eh bien, vous avez souffert d'un syndrome de Stockholm. Voilà.